Amis, frères et sœurs, à vous qui croyez en Dieu ou à vous qui doutez, à vous qui cherchez ou à vous qui êtes fatigués de chercher, à vous qui êtes membres d'une communauté de foi ou peut-être qui êtes sans église fixe, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune, pour cette veillée de Noël. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous franchissez la porte de ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou des réseaux sociaux. Et nous saluons particulièrement les amis qui nous rejoignent de divers pays. Merci de votre fidèle présence, de votre précieux soutien. Cette veillée, accompagnée à l'orgue par David Cassan, organiste titulaire de l'oratoire, que je remercie déjà pour sa présence, est un temps de célébration par lequel nous rejoignons les uns et les autres, par le chant, la prière, la pensée, la solidarité. Nous associons particulièrement à ce temps de culte les familles éprouvées par la pandémie et pour certains l'hospitalisation de leurs proches. Nous pensons aux familles actuellement éprouvées par le deuil de leurs proches et celles qui connaissent la solitude ou un temps de remise en question, une période d'angoisse ou d'incertitude. Et je passe la parole à Henri, Juliette et Denis.
Il fait nuit.
Nuit.
Il fait noir.
Noir.
Il faudrait une lumière.
Une grande lumière.
Très grande.
Il faudrait un espoir.
Une espérance.
Très grande.
Va, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai.
Pour ne plus avoir peur.
Pour avancer.
Pour être joyeux d'une grande joie.
Très grande.
Dans la nuit de Bethléem, la ville du roi David, il fait nuit.
Nuit.
Il fait noir.
Noir.
Pourtant, il y a une lumière.
Une petite lumière.
Toute petite.
Il y a un espoir.
Va libérer mon peuple de l'esclavage.
Il y a un espoir.
Une espérance.
Grande comme un enfant.
Très petit.
Jésus.
Jésus ?
Oui, Dieu, au milieu de nous.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils.
Avec nous, dans la nuit ?
Avec nous, dans le noir ?
Afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne mourra jamais.
Une lumière
très grande
à partir d'un enfant
très petit.
Moi, je ne veux plus avoir peur.
Moi, j'ai envie d'aimer.
Moi, je veux être joyeux.
D'une grande joie.
Moi, je veux avancer avec lui.
Qui ça, lui ?
Lui, Jésus.
Jésus.
Oui, oui. Dieu avec nous.
Dieu au milieu de nous.
commencer cette veillée dans la joie, je vous invite à chanter le premier cantique que vous trouverez dans le Louange et prière. Il s'intitule « Ô peuple fidèle » et c'est le cantique numéro 101. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 et je vous invite à vous lever. Cela fait 4 semaines que nous nous préparons à accueillir Noël, et cette attente est symbolisée par les 4 bougies de la couronne de l'Avent qui sont toutes allumées. Alors je ne sais pas si elles sont allumées. Ah oui, oui, voilà, je les vois. C'est bon. J'avais pas vu. La lumière brille sur la table de communion, mais brille-t-elle aussi dans nos yeux? Illumine-t-elle notre cœur et notre vie? Sommes-nous prêts à accueillir cette fête de Noël alors que notre contexte ne s'y prête pas vraiment? Et où sommes-nous dans notre espérance? Sommes-nous sur la même longueur d'onde que Dieu? Ne serions-nous pas en train de rater le rendez-vous? Alors je vous propose de méditer ce texte écrit par la pasteure Francine Carillo.
Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance et je vous espère dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme réponse et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme pain et je creuse en vous la faim. Vous me façonnez à votre image et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant. Mais, dit Dieu, sous les pavés de vos errances, un Noël de tendresse s'est préparé, où je vous attends, comme la nuit attend le jour.
Mais alors, c'est quoi l'espérance? Et si l'espérance, c'était une irruption de tendresse?
Un jour, Dieu a fait irruption dans le monde. De la manière la plus naturelle, la plus humaine, la plus commune qui soit, née d'une femme. En naissant dans une famille humaine. Ainsi, Dieu a fait irruption dans le monde, non pas comme un Rambo au milieu de ses ennemis, ni comme une tornade qui emporte tout, ni même comme un prophète qui condamne tout.
Dieu a fait irruption dans le monde, comme un enfant dont la venue est une tendresse qui s'offre et une attente de tendresse.
Dieu a fait irruption dans le monde, comme un homme, venu rejoindre d'autres hommes sur leur chemin, pour continuer la route avec eux et la prolonger bien plus loin que les limites prévues.
Dieu a fait irruption dans nos vies, comme un ami peut le faire quand il nous déclare une amitié que nous ne soupçonnions pas. Quand il fait les premiers pas vers nos cœurs blessés et méfiants. Dieu a fait irruption dans nos vies, comme un assoiffé d'amitié, assoiffé d'en donner, assoiffé d'en recevoir, comme celui qui cherche des cœurs ouverts qui lui parleront, comme celui qui cherche des compagnons sur qui s'appuyer, comme celui qui cherche des compagnons qui lui accorderont leur confiance.
Dieu fait irruption dans nos vies, comme celui qui dilate les cœurs, qui fait naître le vrai sourire, qui éclaire le regard, en chassant les vieilles peurs et les vieilles amertumes chez ceux qui reconnaissent la place qu'ils ont dans sa vie et qui lui laissent prendre sa place dans la leur. C'est pourquoi on l'appelle le Sauveur.
prions ensemble. En cette veillée de Noël, notre joie est de te louer, ô Éternel. En Jésus, le Christ, nos cœurs sont illuminés. Nous attendions un surhomme. Tu nous as donné un petit enfant. Nous attendions un chef. Tu nous as donné un frère. Nous attendions un justicier. Tu nous as donné une victime. Nous étions en proie à la haine et voici l'amour. Nous vivions dans la peur et voici la joie. Nous marchions dans les ténèbres et voici la lumière. Les sages sont allés vers toi avec leur richesse, avec leur savoir, avec leur pouvoir, et c'est toi qui les as comblés, c'est toi qu'ils ont adorés. Nous aussi, avec l'Église universelle, avec les sages et les humbles de la terre, nous voulons te louer de tout notre cœur. Amen. Lecture de l'Évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 14. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous aller se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Merci Éternel pour ta parole qui nous accompagne et qui nous rejoint. Amen. Et dans le recueil Louange et prière, je voudrais vous inviter maintenant à prendre le cantique numéro 109, Roi des êtres et des choses. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, et je vous invite à vous lever. Prenez place. Amis, frères et sœurs, En cette veille de Noël, si j'en crois les nouvelles relayées par les médias, tous s'accordent pour dire que la pandémie que nous subissons va de nouveau assombrir les fêtes de fin d'année pour des milliards de personnes qui attendent samedi le passage d'un certain Père Noël. Et oui, et pour les autres qui attendent des retrouvailles familiales. Alors que nous aimerions sûrement avoir l'esprit tranquille pour vivre cette fête dans la quiétude familiale et la joie des enfants devant leurs cadeaux, voilà que les événements du monde continuent de nous alerter et de nous dire que nous sommes toujours dans des temps troublés qui nous invitent à rester vigilants. Mais vigilants à quoi ? Quel horizon se dessine-t-il devant nous ? Quelle espérance y a-t-il pour demain ? Nous entendons les choses les plus contradictoires et nous sommes témoins de tant et tant de violences qui se rapprochent toujours un peu plus de nous. Alors deux questions me taraudent. Combien de raisons avons-nous de désespérer ? Et combien en avons-nous d'espérer ? Ce n'est pas si facile que cela de répondre. La première réaction serait de dire « Mais nous avons mille et une raisons de désespérer. » Il suffit de prendre le métro, de faire quelques stations pour que trois personnes nécessiteuses fassent la manche. Nous apercevons des silhouettes allongées sur le quai, sur des lits de fortune. Et il y a aussi ces femmes plus ou moins jeunes assises dans les couloirs avec une pancarte aussi concrète qu'assassine. « J'ai faim ». Et le tout au milieu d'une foule qui court, qui ne voit plus rien ou qui fait semblant d'être indifférente et qui sûrement se protège. Nous avons mille et une raisons de désespérer si nous lisons les journaux, si nous regardons la télévision, si nous écoutons la radio, envahis par leur cortège de souffrances à travers le monde. Et nous avons encore mille et une raisons de désespérer si nous regardons le piètre témoignage des religions à travers le monde et leurs difficultés belliqueuses pour vivre ensemble, ainsi que les divers scandales qui les secouent. Et chacun de nous peut préciser cette liste avec ce qu'il vit actuellement sur le plan personnel. Alors, en contrepartie, combien de raisons avons-nous d'espérer ? Espérer. Est-ce que cela ne dépend pas un peu de notre personnalité, de notre état d'esprit, de notre caractère ? Une amie me faisait remarquer très récemment qu'il est plus ou moins facile d'espérer suivant qu'on est optimiste ou pessimiste. Et que veut dire espérer ? De quoi parlons-nous ? D'espoir ou d'espérance ? Eh bien, le dictionnaire ne fait pas grande différence entre ces deux mots. Pour lui, espoir et espérance sont synonymes. Les deux mots signifient l'attente, le désir, le souhait que quelque chose arrive. Et si on espère quelque chose, c'est que ce quelque chose ne s'est pas encore produit et on attend sa réalisation. Espérer est de l'ordre du futur et contient par conséquent de l'incertitude. Espérer implique que nous n'avons aucune maîtrise sur ce que nous attendons. Et quand on espère, il y a toujours un doute que cela n'arrive pas. Et en plus, pour couronner le tout, parfois les choses arrivent, mais pas du tout comme on l'espérait. Ce soir, c'est la veillée de Noël, symbolisée par quatre bougies de la couronne de l'Avent. Cette lumière brille, notre attente se termine, notre espérance se concrétise. Ce soir, nous sommes rassemblés pour célébrer une naissance, celle qui nous est racontée dans l'évangile de Luc, une naissance qui aurait eu toutes les chances de passer inaperçue si elle n'avait pas été racontée sous la forme d'une histoire, sous la forme, disons même, d'une parabole. Juste pour nous dire, à nous qui en sommes les auditeurs ce soir, que tout peut arriver, le pire comme le meilleur, mais pas forcément comme on l'avait imaginé. Et la narration que nous venons d'entendre continue de franchir les siècles pour nous rejoindre là où nous en sommes, là où nous sommes. Les chrétiens, toutes dénominations confondues, sont les seuls dans le monde à voir dans la naissance de cet enfant non seulement la présence de Dieu, mais même son incarnation. Dans le Nouveau Testament, seuls deux évangiles sur quatre racontent, chacun à leur manière, l'histoire de la nativité de Jésus. Dans l'évangile de Luc, Jésus naît à Bethléem dans une nuit semblable aux autres nuits, dans une étable semblable aux autres étables. Il naît dans la simplicité, voire la précarité. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus n'aura pas le temps de s'habituer à sa première demeure, qu'il lui faudra partir dans un pays étranger, l'Égypte en l'occurrence, afin de fuir une folie meurtrière, celle du roi Hérode, qui a peur d'un enfant. Mais les deux évangiles racontent une histoire qui parle à tout le monde parce qu'elle rejoint l'humanité dans ce qu'elle a de plus fondamental. Avoir un endroit où s'abriter et vivre en paix lorsqu'on est ballotté sur les routes, qu'elles soient celles de l'exil ou celles d'un recensement. Et le cas échéant, avoir un endroit plus ou moins sécurisé pour venir au monde. Et si besoin est, pouvoir prendre la route pour échapper à la terreur, lorsque la vie est en danger, menacée par un monarque ou un dirigeant avide de pouvoir. Cette recherche est universelle. Et en partageant ce soir cette veillée, nous prenons le temps de nous souvenir que Jésus est le cadeau que Dieu fait à notre humanité pour la transformer et la réorienter dans l'amour. Soyez sans crainte, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tous le sujet d'une grande joie. Cette nuit, dans la ville de David, un sauveur vous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Ce message veut-il dire encore quelque chose pour nous aujourd'hui, alors que bon nombre de nos contemporains sont désenchantés et que nous restons consternés devant le mal qui ne cesse de sévir. Alors que nous butons sur notre impuissance à éradiquer ce mal, nous savons parfois que nous ne pouvons plus nous fier à personne, et encore moins peut-être aux institutions qui échouent dans les tentatives de paix et de conciliation. Mais c'est peut-être pour mieux réentendre le message de Luc et de reconstruire, restaurer la confiance qui, en nous, fait peut-être défaut. Un sauveur nous est né, à nous aussi, aujourd'hui, et il vient dans la nuit, au chevet de notre monde, pour nous dire « Courage, je suis l'aube d'un jour nouveau ». Ce sont les bergers qui sont avertis les premiers. Les bergers, ce sont les personnes les plus mal considérées à cette époque. C'était des marginaux, des non-pratiquants aussi, parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire les rites de purification pour se rendre au temple, puisqu'ils vivaient jour et nuit avec leurs bêtes. Mais ce sont les premiers avertis. Et ils accourent vers l'enfant qui vient de naître et qui est encore dans l'anonymat, lui qui pourtant deviendra le berger de tout un peuple. Et d'une certaine façon, le berger de toute l'humanité, parce que devant lui, chacun pourra être appelé par son nom et chacun pourra exister vraiment et pleinement devant lui. Et c'est bien cela que nous fêtons à Noël. Dans ce récit de l'enfant qui dort dans cette mangeoire, Dieu se donne à voir et à contempler. Oui, bien sûr, Dieu est aussi ailleurs, mais ici, il est avec. Un petit mot qui change tout et qui nous enracine dans l'espérance. Dieu est avec nous. Emmanuel, dira l'évangéliste Matthieu. Au fond, les deux évangélistes ne savaient pas comment le dire, alors c'est pourquoi ils ont choisi de raconter ce récit de la naissance de Jésus pour mettre en valeur ce petit mot de rien du tout, avec. Avec, c'est le mot le plus important, me semble-t-il, de tout le christianisme. Concrétisé aujourd'hui par la naissance d'un enfant qui, dans un endroit, qui naît dans un endroit modeste. Et par cette modestie, comme l'écrivait si justement Raphaël Picon dans l'un de ses éditoriaux, le Dieu de Jésus-Christ est celui qui fait sienne l'aventure humaine, qui s'y risque, qui s'y raconte et qui s'y révèle. Et cela commence par la naissance d'un enfant. Le réformateur Luther disait « Si tu cherches Dieu, va d'abord à Bethléem. Dieu se met à ta portée. Dieu ne se cache pas au ciel et encore moins sur la terre. Aujourd'hui, tu le contemples à Bethléem et demain, tu pourras le suivre, l'écouter, le recevoir et si tu le veux, faire de lui ton ami le plus cher. » La bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ devient une parole qui s'incarne. Autrement dit, qui vient se mettre à la portée de chacun en illuminant notre existence, de la même façon que la lumière a jailli dans les champs, enveloppant les bergers, alors que rien ne les destinait à cela. Nous ne sommes pas plus destinés qu'eux à recevoir cette nouvelle et à être au bénéfice de la lumière qui les enveloppe. Mais la naissance que nous fêtons aujourd'hui peut nous dire trois choses qui peuvent nous enraciner dans l'espérance, ainsi que l'écrivait Karl Barth dans son petit livre intitulé « L'humanité de Dieu ». Une fois pour toutes, il a été décidé en lui, Jésus-Christ, que Dieu n'existe pas sans l'être humain. Dans sa liberté, il ne veut pas être sans l'homme, mais avec lui, et non pas contre lui, mais pour lui, sans mérite de sa part. Nous sommes donc invités à faire résonner ce petit mot « avec » dans nos vies et nos engagements, à la manière d'une sentinelle qui veille, mais qui lutte aussi contre tout ce qui nous déshumanise ou nous rabaisse. Et ce petit mot « avec » est une résistance contre la désespérance, un combat pour la fraternité, un appel inlassable à la solidarité. À Noël, rappelons-nous encore et toujours que Dieu en Jésus-Christ se fait l'un des nôtres. Il nous offre sa parole pour que nous en vivions, mais aussi pour que nous la partagions. Il veille sur nous avec toute la tendresse et toute la sollicitude d'un berger prenant soin de ses brebis. Et au milieu d'un monde qui n'a pas l'air de vouloir ni la paix ni la justice, souvenons-nous qu'aujourd'hui, un Sauveur nous est né. Réjouissons-nous malgré les aléas de la vie et malgré les épreuves que nous traversons. Et je terminerai par cette petite histoire que vous avez sûrement dû voir passer sur vos écrans sous forme de diaporama. Quatre bougies étaient allumées et se consumaient lentement. Le lieu était tellement silencieux qu'on eût pu écouter leur conversation. La première bougie dit « Moi, je suis la paix ». Mais le monde est plein de haine et de guerre, personne ne réussit à me garder allumée. Alors la flamme de la paix s'éteignit. La deuxième bougie dit « Moi, je suis la foi. Malheureusement, je ne sers plus à rien. Les hommes ne veulent plus rien connaître de moi. Il est insensé que je reste allumée. » Et en ce moment même, une brise légère éteignit la flamme de la foi. C'était alors le tour de la troisième bougie. « Moi, je suis l'amour, » dit-elle, bien triste. Les hommes ne comprennent plus mon importance, ils oublient d'aimer jusqu'à ceux qui leur sont même chers. Et sans rien attendre de plus, la flamme de l'amour s'éteignit aussi. Soudain, un petit enfant entra dans cette salle et vit les trois bougies déjà éteintes et leur demanda « Mais que faites-vous là ? » Vous devez rester allumé. » Et disant cela, une larme glissa sur son visage. Alors la quatrième bougie lui dit « N'aie pas peur, car je suis l'espérance. Et aussi longtemps que je suis allumée, nous pouvons toujours allumer de nouveau les autres bougies. Et je vous souhaite un joyeux Noël. » Alors, dans le recueil Louange et prière, je vous invite à prendre le numéro 112, Aux nuits bienveillantes. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever.
Thank you.
Prenez place. Et je passe la parole à Juliette pour quelques moments d'annonce.
Chers frères et sœurs, bonsoir. Merci de votre présence. Tant à distance devant votre écran, vous êtes nombreux ce soir. Nous avons les statistiques et c'est très heureux pour nous. Et aussi, le temple est plein ce soir. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci à Agnès pour le culte qu'elle a présidé aujourd'hui et surtout à David Cassan de nous avoir accompagnés à l'orgue et aussi surtout pour ses improvisations. Alors, sur le thème des annonces, nous vous invitons à nous rejoindre demain. Le conseil presbytéral vous propose un culte donc demain à 10h30, qui sera aussi suivi le dimanche, pareil, à 10h30, un nouveau culte. Et la semaine prochaine, le programme est maintenu pour la pause spirituelle de 12h30 à 13h30, donc le jeudi 30 décembre, ici même dans le temple. Voilà, donc je voulais vous remercier beaucoup en qualité de trésorière des dons que vous avez faits en faveur de la Pérole Oratoire du Louvre et surtout des dons complémentaires que certains d'entre vous ont réalisés cette semaine. Néanmoins, l'exercice n'est pas terminé et vous savez qu'on n'arrive toujours pas forcément à l'objectif qu'on s'est donné, mais si encore un tout petit peu, vous pouviez donc remettre quelques dons d'ici la fin de la semaine prochaine. Si vous le faites par virement ou par carte bancaire, faites bien attention que cela soit émis avant le 31 décembre. Et pour les chèques, évidemment, il faut qu'il soit daté du 31 décembre ou un peu avant. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre soutien et la manière dont nous annonçons l'Évangile et aussi pour le fonctionnement de cette grande paroisse. Merci encore et voici venu le temps de l'offrande. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas trop l'habitude et vous venez de temps en temps seulement ici, vous pouvez donner votre offrande par carte bancaire sans contact avec un petit panier qui va passer parmi vous, ou sinon en espèces ou par chèque à l'ordre de la Pérole. Merci beaucoup et je vous souhaite une très très bonne veillée de Noël et restez enracinés dans l'espérance. Merci encore.
Prions ensemble. Éternel, Dieu de la vie, en cette veillée de Noël, nous nous souvenons que ton amour inconditionnel s'est manifesté en Jésus le Christ pour le salut de tous les hommes. Aucun peuple, aucun pays de ce monde n'est exclu de ta bienveillance. Aussi, tu nous appelles à prier les uns pour les autres et à manifester notre solidarité à l'égard de tous. Éclaire ceux qui usent de la violence par convoitise du pouvoir, convoitise des richesses. Aide-les à changer de regard et donne à chacun de découvrir les bienfaits de la paix que tu donnes. Éclaire également les dirigeants du monde pour qu'ils fassent régner la justice. Et nous t'en prions, soutiens celles et ceux qui souffrent, les victimes, que ce soit d'attentats, de catastrophes, de guerres, de déplacements, d'exil. Comme tous ceux qui souffrent de maladies, quel que soit le nom. Nous remettons à ta grâce et à ton amour toutes les personnes déplacées, les exilés, celles et ceux qui espèrent trouver un refuge, peut-être pour mettre au monde un enfant. Nous te confions aussi celles et ceux qui déposent les armes et travaillent courageusement à la réconciliation. Donne-nous ton aide éternelle pour chacun, chacune d'entre nous, afin que là où nous sommes placés, nous puissions construire un monde comme tu le veux, c'est-à-dire fraternel. Et nous te demandons, chacun à notre manière, de mettre en nos cœurs cette paix incomparable, pour que disparaisse la méfiance, peut-être même l'hostilité. Et rappelle-nous aussi, par ton esprit, qu'une société vraiment démocratique et fraternelle se doit d'élever à la place qu'il aurait dû les petits et les humbles. Nous te bénissons d'être à notre écoute, toujours, de soutenir celles et ceux qui se confient en toi. Merci pour celles et ceux qui continuent de s'engager, qui ne s'abandonne pas au découragement malgré les obstacles et qui continue de réaliser des projets constructifs. Éternel Dieu de la vie, il reste tellement de violence, il reste encore tellement de misère. Alors accompagne celles et ceux qui courageusement partent en maraude. Accompagne celles et ceux qui se déplace un après-midi de Noël pour donner réconfort, présence, attention. Merci de nous tenir au compte des témoins en parole et en acte. Et donne à chacun de conserver, quelle que soit la façon dont ils veulent témoigner, cette force de conviction pour que chacun puisse entrevoir une parcelle de ta présence. Oui, éternel Dieu de la vie, puissions-nous chacun avec nos charismes être un en ton nom, en ton amour, avec notre diversité, et que nous restions, quoi qu'il en soit, des artisans de paix et d'espérance pour ce monde qui en a bien besoin. Et d'un seul cœur, nous te disons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, nous nous souvenons à la lumière de Noël que Jésus est né dans un monde violent et sa venue n'a pas empêché le massacre des innocents. C'est toujours d'actualité. Jésus est né dans un monde injuste et sa venue n'a pas empêché la domination des puissances et des riches. C'est toujours d'actualité. Jésus est né dans un monde inquiet et sa venue n'a pas empêché les peurs et l'incrédulité de conditionner les réactions de la majorité des gens. Et c'est toujours d'actualité. Mais sa venue a apporté une présence et une tendresse pour chaque personne, de la naissance à la mort, un message de réconciliation pour tous les peuples, un autre regard sur Dieu, une espérance vivante pour celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont accueilli Jésus. Finalement, Jésus, c'est un cadeau pour tous les hommes, et ça aussi, c'est toujours d'actualité. Alors, amis, frères et sœurs, que Noël chante en vous son espérance. Que le Christ manifeste sa présence sur tous vos chemins. Et qu'aux heures de tristesse, comme aux heures d'allégresse, la confiance demeure en vous, comme la promesse que Dieu est né en vous. Allez, et que le monde voit votre espérance. Amen. Et dans le recueil Louange et prière, ou peut-être le psautier français, je ne sais pas, vous avez la photocopie d'un chant pas très connu, mais un peu quand même, qui s'intitule « Voici Noël ». Et je vous invite à chanter les strophes 1, 2 et 3.